Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la seconde partie d'Okapi Service. Comment aider son enfant à faire les devoirs à domicile? C'est le thème de cette deuxième partie. Nous en parlons avec monsieur Jean-Claude Disachi Ongala. Il est psychologue scolaire, assistant à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation à l'université de Kinshasa. Il est également secrétaire général de l'association congolaise des psychologues scolaires. Bonjour monsieur Disachi.
Bonjour madame.
Vous voulez participer à cette émission, chers auditeurs, composez les 0 85 42 11 547, 0 85 42 11 547 ou laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook Okapi Service. Benjamin Moutoumbi réalise cette émission, Sylvain Baoguere est à la mise en onde sous la supervision de Jean-Marc Matuaki, Meshak Mboutamoutou assure la diffusion sur nos plateformes numériques et moi, à la présentation, c'est Jocelyne Moussa Opondé.
Radio Okapi, le souffle du Congo.
Les devoirs à domicile sont souvent un moment délicat dans les familles entre fatigue des parents, pression scolaire et manque de méthode. Cela peut vite devenir source de tension. Comment accompagner efficacement son enfant sans faire le travail à sa place? Comment encourager l'autonomie tout en restant présent? Pour en parler, je l'ai annoncé, nous recevons monsieur Disachi. Monsieur Disachi, pourquoi les devoirs à domicile sont-ils importants dans les parcours scolaires de l'enfant?
D'abord, il faut commencer par recadrer un peu les choses parce que les devoirs entrent dans le cadre de l'action pédagogique. Mmh. Et c'est une étape de la leçon. Lorsqu'on enseigne une leçon, la dernière étape qu'on appelle l'application, là-dedans, on peut retrouver les devoirs et ça peut être de deux types. On peut avoir des devoirs dirigés, tout comme on peut avoir des devoirs à domicile. Mmh. Et puis, les devoirs à domicile sont donc des tâches qui sont données aux enfants qu'ils peuvent faire en dehors de la classe, c'est-à-dire à la maison, pendant les temps qu'ils passent dans leur domicile. Donc voilà un peu si nous pouvons recadrer les choses. Et l'objectif pour les devoirs, c'est permettre à ce que les enfants puissent continuer à apprendre au-delà de la classe, tout simplement, qu'ils continuent à performer un peu leurs compétences et leurs acquisitions, parce que le seul moment de la classe ne permet pas toujours que l'enfant puisse tout comprendre au même moment. Voilà pourquoi arrivent les devoirs, pour permettre à ce que l'enfant puisse se performer à travers le travail qu'il peut faire, des devoirs à domicile, à la maison.
Et quel peut être le rôle exact du parent? Il est accompagnateur, il est contrôleur, il est répétiteur?
Madame, il peut être le tout à la fois. Donc, il y a des parents qui peuvent être des accompagnateurs de leurs enfants. Il y a des parents qui peuvent être répétiteurs. Mais ce que nous demandons aux parents très souvent, c'est d'éviter de se substituer à l'enfant. Alors là, ça devient un problème parce qu'il y a des parents, quand il y a un devoir, lui, il se met à la place de l'enfant.
Il n'a pas de patience.
Il n'a pas de patience. Il estime que peut-être que l'enfant ne sera pas à même de faire tel ou tel autre exercice lui donné dans ces devoirs-là. Alors les parents se substituent à l'enfant. C'est ce que nous demandons aux parents d'éviter. Nous leur demandons souvent d'être contrôleur, de savoir vérifier les documents des enfants, parce qu'il y a des parents, même quand on donne un devoir, ils ne savent pas qu'on a donné un devoir à l'enfant. Alors en ce moment-là, ça bloque même le suivi. Or, quand vous savez que l'enfant a un devoir, vous pouvez faire le suivi. Il y a des parents qui contrôlent moins les documents de leurs enfants. Il faut toujours contrôler les documents des enfants pour savoir tel devoir a été donné est en lien avec quel type de leçon et quels sont les exercices qui ont été donnés pour qu'on aide les enfants à faire les devoirs par eux-mêmes et non à faire les devoirs à la place des enfants.
Mais les parents qui les font manquent peut-être de méthode. Est-ce qu'il faut avoir certaines bases en pédagogie, par exemple? On peut avoir la connaissance, mais ne pas savoir comment transmettre à son enfant.
Tout à fait. Tous les parents ne sont pas des pédagogues. Hein. Ça, il faut que les choses soient bien claires. Tous les parents ne sont pas des pédagogues. Voilà pourquoi il y a des répétiteurs qui sont des personnes que vous pouvez payer pour qu'ils puissent se substituer à vous dans ce sens-là. Eh bien, pour les parents qui peuvent quand même avoir certains tacts pédagogiques, hein, de manière innée, nous leur conseillons souvent d'abord de savoir prendre connaissance de travaux qui sont donnés aux enfants. Et si les parents se sentent lui-même à même d'accompagner l'enfant, d'aider l'enfant à faire les travaux, en ce moment-là, je crois que ça sera une bonne chose. Mais aussi, vous avez parlé des méthodes, madame. Hein, il y a beaucoup de choses que les parents ignorent parfois quand il faut aider les enfants à faire le travail. Par exemple, en ce qui concerne la planification temporelle, beaucoup de parents ne savent pas comment planifier les devoirs, et à quel moment l'enfant doit, par exemple, faire les devoirs. Vous savez que l'enfant a pour activité principale le jeu. Et vous ne pouvez pas, quand l'enfant est en train de jouer, l'interrompre pour que l'enfant vienne faire les devoirs. Il faut que l'enfant sache à quel moment il peut faire ses devoirs. Et si ça dépend de l'ambiance familiale, vous pouvez toujours demander aux enfants à une heure précise de faire les devoirs. D'autres parents demandent que les enfants fassent automatiquement les devoirs après qu'ils soient arrivés, qu'ils reviennent de l'école, qu'ils soient arrivés à la maison. Et d'autres aussi estiment que les enfants doivent d'abord se restaurer avant et se reposer pour faire les devoirs. Donc, ça dépend du climat familial, de l'ambiance familiale. Il faut planifier ces temps-là. Et puis, il faut souvent aider les enfants à se déstresser. Hein. Donc, quand il y a un devoir, parfois, ce n'est pas l'enfant qui est stressé, mais c'est plutôt les parents qui sont stressés à la place de l'enfant. Alors, ça devient tout à fait un problème. Ça aussi, il faut amener certains parents à la gestion de stress quand il y a certains problèmes dans ce sens-là pour faire les devoirs. Voilà ce qu'on peut dire envers les parents. Et surtout demander aux parents d'avoir l'habitude d'encourager, de ne pas souvent voir l'échec de l'enfant, de voir plutôt l'effort que l'enfant a fourni pour que l'enfant puisse atteindre ces résultats-là. Si vous vous accrochez souvent aux résultats, l'enfant peut échouer, mais toute évaluation a un rôle de jaugeage. Donc, pour que les parents sachent qu'est-ce que l'enfant a comme acquis en termes de savoir, et même à l'enseignant, ça lui permet aussi de savoir où est-ce qu'il peut réviser avec des enfants et où est-ce qu'il y a des lacunes pour qu'on puisse évidemment mettre un plan d'intervention et voir comment remédier aux lacunes, aux manques que nous pouvons constater dans les acquis scolaires auprès de ces enfants-là.
Mais alors, les parents, un parent qui n'est pas pédagogue, qui n'a pas assez de moyens pour payer un répétiteur, comment il s'en sort pour encadrer son enfant ?
Déjà, les enfants, entre eux aussi, peuvent travailler ensemble. Il y a des groupes de travail des enfants ensemble. Il faut souvent les encourager aussi. Il y a des écoles qui demandent que les enfants restent à l'école après les temps de cours des enseignements pour que ces enfants puissent faire les devoirs à l'école plutôt qu'à la maison, bien que ça soit des devoirs à domicile, mais parce que des écoles ont constaté souvent qu'il y a des parents, quand les devoirs arrivent à la maison, ils n'ont pas la capacité d'aider leurs enfants à bien faire les devoirs. Donc, il y a des écoles qui s'organisent dans ce sens-là. Ici, chez nous, ça n'existe pas ce qu'on appelle les écoles de devoirs. Ailleurs, ça existe. Donc, quand les enfants reviennent, par exemple, de l'école, ils rentrent à la maison, ils se restaurent, parce que l'alimentation aussi est très importante auprès de l'enfant. Quand les enfants se restaurent, ils ont un petit temps de repos. Maintenant, ils peuvent retourner encore à ce qu'on appelle l'école de devoirs. Mais ici, chez nous, ça n'existe pas très souvent. C'est ce qui bloque parfois qu'on puisse aider ces parents qui ont des difficultés, hein, qui n'ont pas tellement beaucoup de connaissances à pouvoir aider leurs enfants à faire des devoirs. Mais nous conseillons à ces parents qui eux-mêmes se sentent parfois pas à niveau d'aider ces enfants, qu'ils puissent consulter des personnes environnantes qui sont à même de pouvoir les aider à travailler
repérer
avec les enfants.
Un voisin,
si facilités. Possible, qui a des facilités, des connaissances dans ces domaines, ou même un autre élève adulte qui habiterait la parcelle environnante ou à côté, qui pourrait avoir des connaissances dans ce sens-là et qui aiderait l'enfant à pouvoir se relever et à pouvoir réaliser un devoir.
0 85 42 11 547, c'est notre numéro de téléphone. Nous avons en ligne Blaise Saïdi à Toubou depuis Kisangani. Bonjour Blaise Saïdi.
Bonjour chère Jocelyne, bonjour à l'invité ainsi qu'auditrice auditeurs de la radio Kassou. Je vais commencer par une proposition avant de chuter par quelques questions, étant donné que le sujet est tellement pertinent. Donc, aider l'enfant à faire ce devoir à domicile est essentiel pour soutenir sa réussite et renforcer sa confiance. Un encadrement régulier et bienveillant favorise sa progression scolaire. Il me semble que le parent doit accompagner et encourager les enfants sans faire le travail à la place de ces derniers. Afin de développer son autonomie, son sens et ses responsabilités et sa discipline. Cher Céline, voici la première question. Quel rôle l'école et les enseignants peuvent-ils jouer pour faciliter les suivis à domicile? La deuxième question, comment maintenir la motivation de l'enfant sur le long terme sans les surcharger? Troisième question, quelle technique pour transformer les devoirs en activités ludiques et stimulantes? Pour citer pour cette série de questions, quelle stratégie utiliser pour que l'enfant devienne progressivement autonome dans ses devoirs? Je me limite à ce niveau-là, chère Justine.
Merci beaucoup, Blaise Saïdi. On va directement prendre un deuxième auditeur pour poser sa question à notre invité, Gentil Bassekwamba, nous appelle depuis Kananga, au Kasaï Central. Bonjour.
Oui, bonjour, madame Joseline Moussaou, et bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Okapi qui me suivent à ce moment. Mais j'ai une petite question seulement, Qu'est-ce qui fait faire un enfant, un élève, hein, avec son devoir comme ça, bon, qui est devant une maman, un parent, un père qui ne sait pas lire ou bien écrire. Parfois, l'enfant peut venir avec les devoirs à la maison et puis il dit à sa maman, maman, il pouvait m'aider à faire ces devoirs ici. Mais sa maman ne sait pas lire ni écrire. Qu'est-ce qui peut faire cet enfant-là, vraiment? C'est ça ma petite question que je pose à l'invité.
Merci. Merci beaucoup, Gentil Bassekwamba, messieurs Disachi, Ongala, Jean-Claude. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à nos auditeurs?
Je commence par répondre à monsieur Gentil Bassekwamba depuis Mbujimayi, c'est ça?
Kananga.
Depuis Kananga. Il veut savoir quand on a un parent qui est analphabète, oui, hein, en bref, qui ne sait ni lire ni écrire, qu'est-ce que nous faisons? Je crois que nous l'avons tantôt dit ici. Nous demandons, nous conseillons aux parents de consulter dans leur environnement des personnes qui peuvent être à même de lire et d'écrire, de comprendre les devoirs pour aider les enfants à réaliser ces devoirs-là. Et puis nous conseillons aux parents de ne pas perdre espoir. Eux aussi peuvent, il y a l'andragogie, les parents peuvent continuer aussi à apprendre. Donc ils peuvent toujours s'améliorer s'ils pouvaient s'inscrire dans un centre d'alphabétisation et d'andragogie pour qu'ils puissent eux-mêmes se performer. Donc dans les cas où ils ont des difficultés, eux-mêmes, ils peuvent consulter les aînés de ces enfants-là, par exemple, ou bien des gens qui sont dans leur environnement immédiat, ou parfois même recourir à l'enseignant. Il faut toujours être toujours
avoir
en contact avec l'enseignant. Il ne faut jamais perdre le contact avec l'enseignant. Il peut toujours donner des directives qu'un membre d'environ comprendrait mieux et qui pourrait aider l'enfant à la résolution de son devoir.
Mais les écoles bilingues aujourd'hui, c'est à la mode. Un enfant qui vous en ramène un devoir en anglais, une langue que vous maîtrisez peut-être pas, comment vous vous en sortez? D'abord, il faut connaître la langue.
Ça,
et puis, maîtriser la matière pour aider son enfant.
Tout à fait, tout à fait. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on peut toujours se documenter d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous demandons aux parents de mettre à la disposition des enfants tous les moyens possibles pour que les enfants puissent réaliser les tâches qu'ils ont, qui leur sont données à l'école. Quand je parle des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il y a l'IA aujourd'hui, par exemple, qui peut aider à faire même les translates, comme on dit. Donc,
mais du coup, le parent ne s'implique pas, le parent ne contrôle pas ce que fait l'enfant, d'ailleurs tout demander à l'IA.
Il y a toujours un contrôle parental, madame, qui existe, et ça c'est un débat, hein, qui chauffe ces derniers temps, mais moi je peux vous dire en tout état de cause que lorsque vous avez un parent qui a des genres de difficultés, qui rencontre par exemple un problème d'anglais alors que lui ne maîtrise pas l'anglais, eh bien il y a des outils qui peuvent faciliter à ce que l'enfant puisse réaliser son devoir sans que les parents ne puissent avoir trop de soucis. Il suffit que les parents mettent suffisamment de moyens à la disposition de l'enfant et que l'enfant fasse des recherches et au besoin consulter l'enseignant, être en contact avec l'enseignant pour avoir des lignes directives qui peuvent permettre à ce qu'on puisse arriver à ce que l'enfant puisse, de par lui-même, faire la tâche qui lui a été confiée à domicile.
Mais là, vous évoquez déjà l'autonomie dont parlait Blaise Saïdi, qui nous a appelé de Kisangani.
Tout à fait. Vous savez que quand vous accompagnez l'enfant à ce que l'enfant puisse, de par lui-même, mener des recherches et que vous faites la confiance à l'enfant, ça lui fait gagner en estime de soi. Très souvent, quand les enfants perdent l'estime de soi, ils pensent que on peut tout faire avec, et les parents peuvent tout faire à leur place. Ça installe ce qu'on appelle un peu le nidicolisme. Donc l'enfant reste dans un état de fixation infantile. Il ne sait pas avancer, il ne sait pas évoluer. Or, l'enfant, par vocation, c'est un être qui est appelé à l'autonomie. Donc, il faut autonomiser l'enfant en lui donnant beaucoup plus de responsabilités en termes de recherche et en termes d'instruments qui sont mis à sa disposition pour lui permettre, de par lui-même, de découvrir quelques tâches à réaliser et de le faire, si possible, bien.
Blaise Saïdi voulait connaître le rôle que peuvent jouer l'école et les enseignants pour faciliter le suivi à domicile.
Je le disais tantôt, d'abord, les conseils que je donne aux enseignants, il y a certains enseignants, madame, ils donnent les devoirs à domicile, mais ils ne corrigent pas les devoirs à domicile. Ça, c'est un problème sérieux.
Donc, et ça décourage les enfants
et les parents en même temps. Parfois, les parents se disent, mais ils vous donnent des devoirs, ils ne corrigent pas. À quoi ça sert de faire le suivi par rapport à ces devoirs-là? Donc, d'abord, à l'école, nous demandons aux enseignants qui donnent les devoirs, de savoir corriger et de donner également les corrigés de cette épreuve-là pour qu'à la maison, on sache quelle est la démarche qu'il a suivie pour atteindre tel ou tel autre résultat. Comme ça, on peut savoir à quel point aider l'enfant s'il y a eu des lacunes ou s'il y a eu des endroits où l'enfant n'avait pas bien saisi. Ça, c'est le rôle de l'école. D'abord, il faut que toutes les autorités de l'école, les directeurs des études, le préfet ou bien les directeurs du primaire, soient derrière l'enseignant qui donne le devoir, qu'il soit lui-même responsable pour corriger les devoirs et donner un corrigé qui va permettre à ce que les parents puissent faire les suivis des devoirs qui a été fait. Ça, c'est au niveau de l'école. Évidemment, ça peut aider les parents. Quand ils verront ce qui a été fait à l'école, ils sauront comment eux aussi emboîter les pas et savoir comment relever les niveaux de l'enfant.
Et Blaise Saïdi voulait savoir comment ne pas surcharger son enfant, surtout dans les grandes villes comme Kinshasa, où on est d'abord buté à des problèmes d'embouteillage, un enfant qui s'élève très tôt pour aller à l'école, qui rentre à la maison peut-être un peu tard, qui doit peut-être d'abord se laver, manger, et se reposer et faire les devoirs. Comment faire pour que cet enfant ne se sente pas très surchargé?
Oui, monsieur Blaise, sa question était dans ce sens, mais il a beaucoup plus insisté sur la concentration. Quelle concentration l'enfant pourrait avoir par rapport à ce temps de réalisation de ces tâches qui lui sont confiées à domicile. Madame, à chaque stade de développement correspond un certain degré de concentration. Prenez par exemple un enfant qui se trouve à la troisième enfance ou à partir de 5-7 ans. Les temps de concentration à cet âge-là nagent entre 10 à 15 minutes. 10 à 15 minutes. Donc vous voyez que si vous allez au-delà de ces temps de concentration, cet enfant-là ne va plus vous accorder l'attention qu'il faut. Il aura la tête ailleurs. Nous prenons un enfant de 8 à 9, 10 ans, il a un temps de concentration d'une vingtaine ou d'une trentaine de minutes. Donc, vous voyez que ce temps de concentration là aussi, si vous lui donnez un temps inférieur ou supérieur à cela, donc ça peut alterner, affecter son temps de concentration. Il y a aussi des enfants qui sont au-delà, par exemple, de 12 à 13 ans, qui ont un temps de concentration. Ceux-là sont déjà des pubères et des adolescents qui ont un temps de concentration d'à peu près 45 minutes à 1 heure du temps. Donc, il faut que les parents soient bien conscients du stade de développement où se trouve cet enfant, c'est-à-dire qu'ils tiennent compte de son âge, qu'ils tiennent compte de l'alternance d'activités qu'ils peuvent donner. Par exemple, pour un enfant de 5 à 7 ans, quand vous lui donnez une tâche et que ça dure déjà entre 10 à 15 minutes, essayez d'alterner avec autre chose. Les enfants, ce sont des gens qui aiment trop les activités ludiques et il y a la pédagogie ludique aussi. Vous pouvez aider ces enfants à travers des chansons à apprendre, par exemple. Vous pouvez alterner à travers quelques images. Hein. Il y a des images pédagogiques comme ça, qui sont à caractère ludique, qui peuvent permettre à ce que l'enfant puisse considérer l'apprentissage comme un jeu et non plus comme une corvée. Donc il faut que les enfants, les parents apprennent aussi à gérer les temps des enfants, qu'ils apprennent aux enfants également à planifier leur temps. Beaucoup d'enfants ont beaucoup de difficultés pour savoir gérer les temps. Quand ils arrivent à l'école, qu'ils reviennent à l'école, qu'est-ce qu'ils font exactement après avoir fait telle ou telle autre chose, à quoi ils s'adonnent encore? Donc les parents devraient surveiller ces rythmes de chaque enfant parce que chaque enfant a son rythme propre. Et si les parents se découvrent quel est le rythme de l'enfant, il saura à quel moment lui donner telle ou telle autre tâche pour ne pas le surcharger et pour ne pas peser sur son attention et sa concentration.
Mais qu'est-ce qui est préférable selon vous, faire le devoir juste après l'école? Quand on arrive à la maison, on fait ses devoirs, on s'en débarrasse et on se tourne vers autre chose. Ou bien il faut d'abord se reposer, manger. Qu'est-ce qui est préférable?
Je crois que, comme nous le disons tantôt, chacun de nous a un rythme personnel d'adaptation, un rythme personnel d'apprentissage. Cela dépend d'un enfant à un autre. Cela dépend d'une éducation à une autre, cela dépend d'un foyer à un autre. Donc, il faut savoir d'abord lire les contextes dans lesquels nous sommes, étudier quel type d'enfant nous avons devant nous et comment l'accompagner par rapport à son propre rythme. Si nous essayons d'imposer un rythme commun à tous les enfants du monde, ça reviendrait à dire qu'il n'y a plus d'individualité et que tout le monde devrait se comporter de la même façon.
Voilà. Et les écrans, parlons-en, oui. Le téléphone, les tablettes. Est-ce que pendant la semaine, où les enfants doivent faire les devoirs, est-ce qu'ils peuvent avoir un temps d'écran ou bien ces écrans doivent être totalement interdits pendant la semaine et pendant qu'ils font le devoir à domicile?
Vous savez, madame, aujourd'hui, la question des écrans est un problème récurrent. Hein. On en parle, pas seulement ici en République démocratique du Congo, mais un peu partout dans le monde, hein, les problèmes des écrans. Il y a des enfants qui sont accros à l'écran. Et quand on devient... L'acronisme devient déjà un problème. C'est déjà une pathologie qu'il faut savoir suivre. C'est ce que je disais tantôt. Il faut savoir réguler les temps des enfants, même les temps qu'ils s'adonnent à la télévision, par exemple, les temps qu'ils doivent accorder aux apprentissages qui se font, par exemple, à travers des tablettes, ou bien aux jeux qu'ils doivent accorder, par exemple, aux jeux qui passent par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme des tablettes, les ordinateurs et autres. Ça, je demande aux parents d'être regardants par rapport à tout ce que font leurs enfants. Il y a beaucoup de parents, quand ils donnent une tablette à son enfant, il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Le contenu, il n'en sait absolument rien. Et quel type d'activité auquel l'enfant doit se livrer à travers cet instrument qu'il a donné à l'enfant, les parents ne savent pas. Donc nous demandons qu'il y ait un suivi et un contrôle parental. C'est un outil d'apprentissage dont on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Conseiller aux parents de retirer complètement ces outils auprès des enfants, ça ne serait pas un bon conseil. Mais demander aux parents d'avoir un œil sur ce que font les enfants et les contenus qu'il y a dans ces outils-là, je crois que c'est là où les parents ont un rôle capital à jouer.
Vous avez dit au début de l'émission qu'il est dangereux de trop intervenir, de faire les devoirs à la place de l'enfant. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est l'inverse qui s'est produit pour un parent qui ne s'implique pas du tout dans les devoirs de ses enfants, de son enfant? Quels sont les risques d'une telle attitude?
Déjà, les parents, c'est le premier modèle de l'enfant que nous avons dans la vie. Si vous montrez à votre enfant de la négligence, rassurez-vous que cet enfant-là ne pourra produire que de la négligence. Si vous ne suivez pas tout ce que fait votre enfant, il va sentir qu'il y a un certain relâchement, il va sentir qu'il n'y a pas de contrôle. Et le rôle du parent, c'est ce surmoi-là, c'est cet interdit-là. C'est le parent qui sait canaliser, qui sait dire à l'enfant, écoute, voilà là où sont tes limites, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne peux pas faire. Et s'il n'y a pas ce contrôle parental-là, ça pose un problème sérieux, madame.
Nous allons prendre en ligne Maître Gaston qui nous revient, Gaston Gandou qui nous appelle depuis Matadi. Rebonjour Maître Gaston.
Rebonjour madame. Je pense que nous devons faire parfois la réalité, aider nos enfants à faire leurs devoirs. C'est le devoir de l'enfant. L'aider dans le sens que on doit veiller à ce que l'enfant puisse faire lui-même son devoir. Le devoir en soi, c'est quoi? C'est un exercice personnel sur une leçon apprise à l'école qu'on suppose que l'enfant a compris. Il y a même la révision qui intervient le lendemain, lors de la leçon suivante. Mm. Mais surtout, si à la fin, il y a une petite évaluation que l'enseignant peut savoir faire révision pour voir si la matière a été assimilée. Alors, on donne un petit exercice pour voir si les enfants avaient compris. Alors, si l'enfant est censé, lui qui avait appris la leçon, aller faire cet exercice lui-même. Ce n'est pas un parent quelconque, que l'enseignant soit-il. Et d'ailleurs, tous les parents ne sont pas enseignants. Et si on veut que les parents, et dans la plupart des cas, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui y arrive, l'enfant vient avec un devoir que lui-même n'a pas compris la leçon à l'école, et c'est la famille qui est censée apprendre, faire comprendre cette leçon à l'enfant. Non, mais là, l'enseignant n'a pris sa place, ou l'école n'a pris sa place. C'est à l'école de faire comprendre la leçon à l'enfant, et surtout le lendemain, voir si ceux qui ont bien fait, bien sûr, ceux qui l'ont pas bien, améliorer leur niveau. Peut-être cette méthodologie-là que nous demandons que ce soit d'application, ce n'est pas aux familles de les devoirs aux enfants, mais c'est aux enfants eux-mêmes de faire leurs devoirs. La famille doit veiller à ce que s'il y a un devoir, l'enfant puisse le faire et l'école corrige, évalue le niveau des enfants. Mmh. Et je voulais aussi demander pour terminer, j'ai pu constater ces derniers temps qu'un système là de rattrapage, qu'on appelle le système de rattrapage, où les parents sont obligés, en dehors des frais qu'ils paient à l'école pour la formation, l'instruction de leurs enfants, engager encore d'autres instituteurs en dehors de l'école, voire dans la plupart des cas sont des mêmes enseignants qui sont. Mais cette tendance n'a pas existé depuis la nuit des temps. Est-ce que ça ne favorise pas aussi la faiblesse des enseignants actuellement que nous constatons? Et puis, il arrive des fois, moi par exemple, je l'ai encore rencontré plusieurs fois, un enfant bien compris la leçon qui a été apprise à l'école, mais qui a été mal enseigné. Mm. Vous comprenez? Donc vous venez, vous faites les devoirs concernant cette leçon-là avec l'enfant. L'enfant vous reprend, vous dit que non, c'est comment enseigner, c'est ce qui est, c'est pas ça. Donc il croit à ce que son enseignant lui avait enseigné, et pourtant, toi tu vois que c'est vraiment une grande erreur, c'est vraiment une déviation de la manière dont les choses doivent. Alors, devant cette équation, l'enfant doit croire à la matière de qui? Aux parents, ou soit de l'instituteur qui lui donne à la maison, ou la mauvaise matière que l'enseignant a donnée à l'air. Un peu cette confusion-là, je veux qu'on puisse éviter ça, laisser l'enseignant faire son travail. Il doit bien comprendre et enseigner la matière, et puis contrôler que la matière a été apprise. Le cas contraire, veille à ce que le niveau des enfants puisse être amené. Il ne faut pas surcharger les parents qui ont déjà beaucoup de choses à faire, des choses qui versent en plus, et ça, l'argent là-bas. Laissez les enfants, les enseignants et les enfants faire le travail qui les concerne.
Merci. Merci, Maître Gaston Gandou, depuis Matadi. Monsieur Jean-Claude Issachi, Ongala, que répondez-vous à Maître Gaston Gandou?
Monsieur Gaston Gandou, depuis Matadi, veut savoir Qu'est-ce qu'il en est de la pratique des rattrapages aujourd'hui dans les écoles,
qui surcharge encore les parents, qui paye déjà les frais scolaires?
Alors, je ne comprends pas. Monsieur Gaston lui-même dit encore qu'il faut laisser la charge aux écoles de faire les devoirs avec les enfants.
Il dit c'est à l'école. C'est à l'école à l'enseignant de bien expliquer le cours. Et à l'enfant de travailler.
Et je suis d'accord avec lui.
Et les parents ne s'impliquent pas.
Je suis d'accord avec lui, mais quand il dit qu'il ne faut pas surcharger les parents et laisser cette charge à l'école, et quand l'école met un système de rattrapage, lui veut en savoir encore plus. Mais j'aimerais dire quelque chose par rapport au système
rattrapage, peut-être pour les cours, pas pour les devoirs.
Oui, c'est ce que je veux dire tout de suite là. En fait, le rattrapage, c'est quoi? Le rattrapage entre dans le cadre du soutien scolaire. Le rattrapage entre dans le cadre de la remédiation. Au fait, il y a rattrapage quand nous constatons qu'il y a certaines notions qui devaient être dûment acquises par l'élève, mais qui n'ont pas été acquises dans le cadre de la classe. Vous savez que l'enseignant qui est dans une situation d'apprentissage, dans une situation de classe, il n'a pas qu'un seul élève. Il ne peut pas individualiser l'enseignement. Il dispense sa matière de manière collective. Mais quand il y a rattrapage, c'est quand on constate que de manière individuelle, il y a des lacunes auprès des enfants. Alors auprès de ces enfants-là, on peut intervenir en termes de plan d'intervention. Le rattrapage entre dans ce cadre-là. Et si les parents estiment qu'ils ont beaucoup de choses à faire et qu'ils n'ont pas beaucoup de temps de s'occuper, ben, mais c'est une occasion pour qu'ils puissent donner quelque chose pour que les parents, les rattrapages s'effacent pour rehausser les niveaux de ces enfants-là. C'est de la remédiation. Alors, il a voulu aussi parler il dit une leçon mal enseignée. Et quand les parents constatent que la leçon a été mal enseignée, que l'enfant vient, l'enfant répète les mêmes erreurs, alors que les parents constatent que ce que l'enfant est en train de dire n'est pas du tout ce qui devait être connu ou n'est pas du tout de la vérité. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, j'aimerais dire à Maître Gaston que l'enseignant est un dieu pour l'enfant. L'enseignant est un dieu. Tout ce que l'enseignant apprend à l'enfant, l'enfant le retient comme tel. Même si vous, son père ou sa mère, vous lui dites que ce n'est pas ça, il vous dira, l'enseignant a dit. Magister dixit. Vous apprenez à un enfant qu'on dit la papa plutôt que le papa. Quand il rentrera chez lui à la maison, il dira, à l'école, on nous a appris qu'on dit la papa, qu'on ne dit pas le papa. Donc si la leçon a été mal enseignée et que les parents constatent, le mieux à faire, comme je l'ai dit, il faut garder les contacts avec l'école. Le parent doit aller à l'école auprès de l'enseignant, auprès des autorités de l'école pour signifier ce qu'il a constaté comme erreur transmise par l'enseignant auprès des enfants.
Sans pour autant dénigrer l'enseignant auprès
tout
de
à fait,
son enfant.
Tout à fait. Ce n'est qu'à ce prix-là que l'enseignant peut amender son enseignement s'il y a effectivement une erreur qui s'était laissée glisser. Voilà ce que je peux dire à notre maître Gaston depuis Matadi.
Comment aider son enfant à faire les devoirs à domicile? Nous en parlons avec monsieur Jean-Claude Dissachiongala. Il est psychologue scolaire, assistant à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation à l'université de Kinshasa, également secrétaire général de l'association congolaise des psychologues scolaires. Et si vous voulez participer à cette émission, chers auditeurs, composez les 0 85 42 11 547 0 85 42 11 547, ou laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook Okapi Service. Monsieur Jean-Claude Dissachi, parlons à présent de l'espace de travail. La maison, certains ne sont pas propices au travail. Il y en a qui sont parfois petites, il y en a qui sont très bruyantes. Comment aménager un espace propice au travail dans une maison qui est dans ces conditions?
Madame, les maisons sont petites, ça arrive, mais aussi l'environnement. Et l'environnement peut aussi créer
le quartier.
Le quartier.
Avec beaucoup de bars et des églises.
C'est ce que je voulais dire. Vous regardez ce qu'il y a comme prolifération des églises et des bars aujourd'hui, tout autour des écoles d'ailleurs, et même de nos maisons. Tous ces boucans-là, comment les enfants font pour arriver à apprendre, quel moment ils ont pour se concentrer, pour réaliser les tâches qui leur ont été données à domicile. Ça, c'est un problème sérieux. Et cela n'est pas seulement un problème qui nécessite que les parents puissent, seuls les parents interviennent. Mais il faut une collégialité d'intervention. Hein. Il faut que l'État aussi puisse avoir un regard là-dedans. J'ai ouï dire certaines années passées qu'on interdisait parfois à certains bars de jouer de la musique jusqu'à telle ou telle heure, à certaines églises de savoir baisser les sons et tout ça, mais ça ne marche toujours pas. Par rapport à ça, nous demandons à l'État de se prendre en charge et de savoir qu'au-delà de tous ces bars-là ou toutes ces églises-là, mais il y a quand même des gens qui ont aussi leur temps, qui doivent consacrer à leurs études et à leurs occupations personnelles. Et maintenant, par rapport à la gestion de l'espace familial, moi je crois que toutes les maisons ne se ressemblent pas et toutes les familles n'ont pas la même taille. Il y a des familles qui sont nombreuses avec beaucoup d'enfants, mais qui occupent un tout petit espace. Et à ceux-là, je vais souvent conseiller aux parents de savoir lire les moments. Quels sont les moments, les temps où ils peuvent accorder à leurs enfants pour que les enfants fassent les devoirs. Par exemple, si les enfants reviennent de l'école, est-ce que les aînés sont déjà partis? Est-ce que quand les aînés reviendront, ça ne va pas créer encore du boucan à la maison? Profitez pendant ces temps-là d'échange où les autres sont partis et les autres sont à la maison pour savoir comment aider ces enfants à faire les tâches qui leur sont données. Aussi, l'aération est un grand problème. Vous savez que le cerveau utilise beaucoup d'énergie, beaucoup d'oxygène. Il faut que les enfants soient dans un espace où ils peuvent avoir suffisamment de l'air pour que cette aération puisse agir positivement sur leur concentration et sur leur attention. Je crois que les parents doivent veiller à ces certains. Parfois aussi, aider les enfants s'ils ne peuvent pas faire dans la maison où il y a beaucoup de chaleur, s'ils peuvent sortir même à l'extérieur,
se mettre à l'extérieur
pour essayer d'avoir suffisamment de l'air et qu'ils puissent s'adonner aux tâches qui leur sont confiées.
Et il y en a qui allaient même dans des églises, les églises qui font pas trop de bruit, dans des paroisses qui ont assez d'espace. Et nous, on a fait ça, hein, qu'on préparait les examens. On va dans une église catholique, généralement c'est très calme, pour étudier si il n'y a pas assez d'espace ou il y a trop de bruit autour.
Il y a des endroits comme ça. Et malheureusement, les espaces verts, par exemple, n'existent
plus.
Ça disparaît de plus en plus ici chez nous. Et même quand vous allez dans nos églises aujourd'hui, hein, vous allez trouver qu'il y a des répétitions par-ci, des répétitions
par-là. Réunion des mamans, réunion des papas.
Donc, ce que nous demandons aussi à l'État, c'est de savoir accompagner les enfants dans ce sens-là. Je vous ai dit qu'il y a des écoles de devoirs qui existent ailleurs. Pourquoi pas créer des écoles de devoirs où les enfants irait par exemple après l'école, après qu'ils aient été à la maison, ils se restaurent et puis ils vont exclusivement là-bas pour aller travailler. Il y a des centres comme ça qui existent ailleurs. Malheureusement ici chez nous, on n'a pas encore pris la chose à bras le corps. Voilà un peu là où ça pose problème, madame. Donc nous demandons seulement aux parents de savoir gérer ces moments-là d'alternance de ceux qui sont à la maison, de ceux qui entrent, de ceux qui sortent, et voir quel est le meilleur moment où ils peuvent aider les enfants à réaliser les tâches qui leur sont confiées.
On va prendre un auditeur au bout du fil. Achille Kassongo nous appelle depuis Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à Dukopi.
Bonjour, monsieur Achille. Quelle est votre contribution à cette émission? On vous entend. Quelle est votre contribution et quelles sont vos préoccupations?
Merci pour la parole. Alors, je voudrais dire là, ça que je venais de suivre l'invité qui a dit que des parents qui ne surveillent pas les enfants, donc qui négligent, n'est-ce pas, les enfants, ces enfants-là peuvent aussi être négligents. Alors, je voudrais savoir pas qu'il y a les enfants qui sont à l'internat, parce que moi, je suis venu de l'internat, loin de mes parents. Bien sûr, il y a des encadreurs là-bas, mais hein, ils remplacent pas naturellement les parents. qu'est-ce que vous pouvez dire, quel commentaire pouvez-vous donner à ces enfants-là qui vivent loin des deux parents? Mmh. Est-ce qu'eux aussi peuvent être négligents? J'aimerais demander à l'invité, quel conseil donnerez-vous aux enseignants qui ont souvent l'habitude de donner les devoirs, surtout les enseignants de l'école primaire, donc degré surtout élémentaire, faire la matière même encore enseignée, alors qu'on sait que l'enfant n'y connaît rien pendant ces temps-là. Quel conseil pouvez-vous donner à ces enfants-là? Merci beaucoup. Et à ces enseignants-là. Merci.
Merci Achille Kasongo depuis Lubumbashi, maître Monsieur Disashi.
Monsieur Achille Kasongo depuis Lubumbashi Watashi veut savoir qu'est-ce que nous faisons pour aider les enfants qui sont par exemple dans les internats,
dans les internes,
et qui sont très loin de
leurs
des
parents.
Moi je crois que les parents sont substitués aux internats par des encadreurs qui sont là-bas. Il y a des surnuméraires, il y a des responsables qui sont... D'ailleurs, il y a beaucoup plus de rigueur dans ces milieux-là que dans nos
qu'à
milieux
la
aussi libres que la maison ou bien nos écoles ici. Donc je crois que ceux qui sont au loin, ce que le parent peut faire, c'est quand l'enfant revient à la maison, il doit savoir suivre un peu l'évolution de son enfant en contrôlant les documents de l'enfant. C'est à ce moment-là qu'il saura si l'enfant est en progression ou si l'enfant est en régression. Et s'il constate que l'enfant est en progression, c'est bien, mais s'il constate que l'enfant est en régression, il peut toujours contacter l'école. J'ai dit que le contact entre l'école et la famille doit être permanent. Il ne peut pas être interrompu. Donc, il peut toujours contacter l'internat pour savoir quelles sont les raisons qui ont milité à ce que nous puissions constater une régression dans la performance scolaire de cet enfant-là. Donc, nous demandons aux parents de savoir souvent suivre, contrôler les documents des enfants quand ils reviennent des vacances, des internats où ils ont été affectés. Alors, il veut savoir également... quand la matière a été non enseignée, mais que l'enseignant donne un devoir là-dessus. Je l'ai tantôt dit, disait d'entrée de jeu ici, que le devoir fait partie intégrante de la leçon. C'est une étape même de la leçon. Donc, lorsque nous arrivons à l'étape appelée application, l'une des sous-étapes, on peut procéder par des exercices pour l'application que l'enseignant peut donner. Il peut donner des exercices à titre illustratif dans la salle de classe, mais il donne le devoir à domicile pour que l'enfant puisse aller mieux faire et mieux comprendre ce qu'il a donné dans la salle de classe. Donc, quand la matière n'a pas été enseignée et que l'enseignant donne pour cela un devoir, nous allons nous demander quel référentiel l'enfant aura, ou quel référentiel les parents auront pour aider.
C'est peut-être pour pousser l'enfant à la recherche des parents.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a des devoirs qui sont donnés, mais alors, dans ce sens-là, ça ne devient plus un devoir à domicile. Ça devient un travail pratique, un travail de recherche. Il faut nuancer, les termes sont, il faut savoir quel jargon utiliser. Là, ça ne devient plus un devoir à domicile, mais ça devient un travail pratique et l'enfant doit mener des recherches pour arriver. Parce que si c'est un devoir, le devoir doit se baser sur une matière qui a été dispensée au préalable à l'école.
Mais que faire, hein? Il faut suivre les documents de l'enfant, contrôler, comme vous avez dit. Que faire quand le parent lui-même est fatigué ou stressé avec le poids de la vie?
C'est ce qui arrive très souvent d'ailleurs, que les parents soient fatigués, que les parents ne... L'adulte, comme on le dit, l'adulte n'a pas souvent le temps. L'adulte n'a pas le temps, il n'a pas le temps de suivre, il n'a pas... Mais je vais vous dire une chose, madame. Si vous n'avez pas le temps pour vos propres enfants, vous avez du temps pour quoi?
Pour qui?
Vous avez du temps pour qui? Et il faut que les parents arrivent à un certain moment. Parfois, les parents... Le simple manque de l'attention d'un parent envers son enfant peut pousser cet enfant-là à se rebeller, même à échouer pour attirer l'attention du parent. Donc, parfois, il y a des enfants qui échouent, non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'ils voudraient s'attirer l'attention de son père ou de sa mère. Le seul moment où les parents lui parlent, c'est quand il gronde, c'est quand il tape, c'est quand il crie, c'est quand il lui fait voir quelle performance malheureuse il a eu à l'examen parce qu'il a échoué. Donc, il faut ce temps de dialogue entre enfants et parents est très capital. Ce lien-là, nous déconseillons toujours aux parents, au-delà de tout, de toujours manifester cet amour inconditionnel envers leurs enfants. Il peut être fatigué, mais il peut toujours trouver du temps pour son enfant ou pour sa famille. Nous demandons toujours aux parents d'avoir cette attitude d'amour inconditionnel, de toujours pouvoir trouver du temps pour leurs enfants. C'est très nécessaire. Ça renforce la confiance en soi, ça renforce l'estime de soi et ça booste même la performance des enfants quand il y a cette attention du parent envers l'enfant.
Il, les parents, il peut être disposé, mais l'enfant refuse de travailler. Surtout, ça peut arriver quand l'enfant traverse des crises d'adolescence. Oui. On lui dit de travailler, il dit je sais ce que je fais, je sais comment j'organise mon temps. Ben, laissez-moi tranquille. Comment réagir?
Madame, nous parlons de l'adolescent. Voilà les caractéristiques d'un adolescent. Un adolescent, c'est un rebelle de par la nature. Hein, c'est un rebelle. Il se rebelle contre tout. Il se rebelle contre l'ordre établi. C'est quelqu'un qui veut faire de nouvelles découvertes. Il remet tout en cause. Il faut que les parents sachent bien dans quel stade de développement se trouve cet enfant-là. Si c'est un enfant qui remet tout en cause, eh bien, prenez le temps d'échanger avec lui. Échanger autour des idéaux, échanger autour des valeurs, échanger autour des objectifs de cet enfant-là. Qu'est-ce qu'il voudrait faire dans la vie? Il ne faut plus le considérer comme un tout petit enfant. C'est quelqu'un qui remet tout en cause. Il s'interroge sur le monde qu'il veut changer, qu'il veut transformer. Ce qui n'est pas du tout mauvais. Il suffit simplement que cela soit bien canalisé et ça ne peut que l'être s'il a en face de lui un parent qui sait comprendre dans quel stade de développement se trouve cet enfant-là et petit à petit apprendre à le responsabiliser, à lui faire confiance. Eh bien, s'il te dit que là, ben, je sais, il sait parce qu'il est dans une période d'épreuve.
Mais il sait, et puis à un moment, on se rend compte qu'il n'a pas fait le devoir. Qu'est-ce qu'on fait?
Mais tout dépend.
On le punit, on fait comment?
Mais tout dépend aussi de la manière dont vous abordez la chose, hein, madame. Il faut voir l'intonation de la voix, il faut voir l'imposition aussi. Donc, et lui aussi, c'est un être qui a besoin de gérer cette imposition, de gérer cette intonation, de gérer cette manière d'instruire, parfois avec force, parfois avec injonction, parfois. Non, mais il faut solliciter la coopération quand nous sommes face à des adolescents. Solliciter leur propre conscience, leur faire confiance et leur faire voir qu'ils sont eux-mêmes à même de s'organiser, de s'autonomiser, de se prendre eux-mêmes en charge. Eh bien, s'il te dit que je vais répéter, mais il faut lui dire, d'accord, mais j'aimerais quand même voir ton horaire là, et c'est quand tu répètes, quand tu revois tes notes. Quand tu auras fini, tu me soumettras quand même un petit canevas de questions, et je pourrais te poser pour voir si tu as vraiment lu. Ok, donc vous ne lui faites pas une pression par rapport à une quelconque imposition, mais il sait dans son subconscient que là, le papa, maman m'a dit qu'après que j'ai lu, et qu'il aura des questions à me poser. Et vous verrez bien qu'il peut éviter, mais il trouvera finalement un moment où il va s'adonner à l'étude, parce qu'il sait bien qu'après ça, il y aura finalement des questions qui lui seront posées par les parents auxquelles il devra répondre. Donc il faut beaucoup de tact avec les adolescents qui sont dans
pour
un âge
pour éviter de les conflits.
Des collisions, des conflits.
Et pourquoi ces devoirs deviennent-ils souvent des moments de conflit entre les adolescents, les enfants et leurs parents?
C'est justement ce que nous sommes en train de dire. L'imposition, madame, l'imposition. Cette imposition, ces injonctions ne doivent pas se faire en minimisant l'enfant, en le tenant, en lui rappelant que c'est un enfant, comme tout enfant, alors que lui, c'est un autre qui est en progression, qui est en train de grandir, qui sent qu'il commence à prendre de nouvelles options, et vous le ramenez dans la manière de le traiter à un certain enfantillage, ce qu'il ne va jamais accepter par rapport à son stade de développement, parce que je vous l'ai dit tantôt, l'adolescent de par sa nature, c'est un être rebelle, c'est quelqu'un qui remet tout en question. Et vous savez, avec les rebelles, il faut avoir des tacts et des négociations, madame. Si vous ne savez pas négocier, on ne sait pas jusqu'où on pourrait arriver.
Alors, et parlons des tout petits, enfin, même des grands, hein, même des adolescents. À quel moment il faut envisager un répétiteur? Si on a on en a les moyens, bien sûr.
Oui, il y a les problèmes de moyens qui vont avec, mais aussi il y a d'abord les référentiels, c'est la performance de l'élève à l'école. Mmh. Qu'est-ce que l'élève a réalisé comme performance? Si vous estimez qu'il est en nette progression et qu'il est en train d'avancer, ça ne va pas nécessiter forcément un répétiteur. Mmh. Mais si vous estimez que vous constatez que l'enfant regresse et que l'enfant ne sait pas évoluer, Vous estimez que, par exemple, l'enfant qui a obtenu 60% à la première période, vous arrivez à la troisième période, il est dans 45%. Mmh. Eh bien, donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Il faut essayer de chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui bloque. Et je crois que ce travail-là, déjà, au niveau de l'école, ils vont vous le dire. Ils vont dire, mais on constate que votre enfant est en train de régresser. Mmh. Et vous-même aussi, vous allez le constater. Mais alors, il faut trouver les causes. Qu'est-ce qui font que, qu'est-ce qui fait que cet enfant
qui a bien travaillé à la première période.
Qui a bien travaillé, mais qui puisse régresser. Mm. Et dès qu'on identifie les causes, maintenant, il faut savoir comment y remédier. Et je crois que ça, aussi, il faut demander à certains parents de savoir aussi, si besoin, consulter des psychologues quand ils voient qu'il y a un problème.
Mais on en trouve où, déjà, je posais la question avant l'émission, on les trouve où, les psychologues scolaires?
Ben, les psychologues scolaires existent, madame. Je suis une preuve. Hein. Je suis là devant vous.
Oui.
Et je vous l'ai dit tantôt, je suis secrétaire général de l'Association congolaise des psychologues scolaires.
Parce qu'il existe même une association.
Il existe même une association et nous sommes même en train d'aller avec les autres collègues, les cliniciens, les travaillistes et autres, aller vers l'Ordre national des psychologues. Mmh. Donc, ces gens existent. Mais la culture, c'est un problème ici en République démocratique du Congo. Est-ce que, madame, quand vous avez un problème, par exemple, dans le couple, vous allez voir les pasteurs, vous allez voir
les parents,
est-ce
les
que
témoins
vous savez
de
qu'il existe des conseillers conjugaux qui n'ont rien à voir avec des pasteurs? C'est ça la difficulté que nous avons. Il existe des psychologues qui peuvent suivre des enfants, qui peuvent statuer sur les rythmes de l'apprentissage de l'enfant et qui peuvent savoir monter un plan d'intervention pour savoir agir là où ils sentent qu'il y a un problème. Il y a des enfants qui présentent des problèmes, par exemple, ce qu'on appelle des problèmes cognitivo-comportementaux. Je vais vous donner un exemple. Nous avons des problèmes d'attention, par exemple. Nous avons des problèmes de mémoire. Tous ces problèmes-là, est-ce que s'il n'y a pas de psychologue pour intervenir, où est-ce que nous allons, madame? Il existe des psychologues et ils sont à l'université de Kinshasa, où se trouve actuellement le siège de l'ACSP.
Merci beaucoup, monsieur Disashi Ongala Jean-Claude. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être venu dans ces studios de Radio Capi pour répondre à nos questions et aux questions des auditeurs. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir participé à travers vos contributions et questions. Restez à l'écoute de la fréquence de la paix et on se retrouve très bientôt.